Un danger public par Binet Balmer. Clotilde Androlot s'ennuyait ce soir-là, plus cruellement encore qu'elle n'avait accoutumé quand tombait la nuit. Si jolie qu'elle fût, elle ne pouvait demeurer en tête-à-tête avec elle-même, tant la fatiguaient les séductions toujours pareilles de son agréable visage reflété par la glace, le mouvement de ses pensées qu'elle retrouvait, lisant entre les lignes dans le roman qu'elle laissait tomber sur ses genoux. Depuis 2 mois, son ambitieux mari avait obtenu gain de cause auprès de ses chefs. Il était juge d'instruction à Paris. Quel triomphe à son âge! Mais pour Clotilde, quelle désillusion que cette morne existence où la contraignait dans la capitale, la médiocrité de leur fortune et le souci de ne pas se commettre au hasard de relations trop vite nouées. Clotilde regrettait la province qu'elle avait maudite. Elle était perdue dans la grande ville. « Ne va pas dans les magasins !» lui avait dit Androlot, « tu nous ruines !» Elle ne devait à aucun prix prendre le thé, fût-ce avec une amie de passage dans l'un de ces établissements où les danseurs mondains font leur carrière. « Nous aurons un enfant l'année prochaine, » conclut Androlot. « Cela te distraira. » Alors, telle Madame Bovary, elle s'asseyait devant la fenêtre et, fermant les yeux, elle imaginait qu'elle n'était pas la compagne d'un juge, mais la complice de l'un de ces aventuriers qu'interrogeait en son cabinet cet homme austère qu'elle n'aimait plus. « Te voilà encore abâillé aux corneilles !» fit Jules-François Androlot, qui s'ébrouait en rentrant chez lui. « Si c'était aux corneilles !» lui répondit-elle en détournant les yeux. Sans doute Jules-François n'avait-il rien pour plaire à une amoureuse, et pourtant il avait plu à Clotilde par son intelligence, la qualité de sa voix, la dignité unanimement reconnue de sa vie et de ses mœurs. Il s'approcha de la rêveuse, posa sur le front soucieux un baiser presque paternel. « Ne te plains pas, tu es à l'abri !» Et prenant sa place derrière la table de travail, il chassa les mauvais rêves du crépuscule en allumant la lampe. Il avait un assez noble visage de magistrat, des traits immobiles, fortement accusés, une bouche prompte à l'ironie sous la lèvre rasée. Constamment, il rejetait la tête en arrière. Un seul défaut, il ne pouvait parler sans se frotter les mains. « Journée passionnante » fit-il en cédant à sa manie. « Viens près de moi que je te raconte. »« Tu as encore refusé une mise en liberté provisoire » murmura-t-elle dans un soupir de lassitude. « Et peut-être ai-je eu tort, mais viens plus près. Tu te plains d'être comme un exil et tu as la chance d'entendre, grâce à moi, les échos des passions les plus diverses, les plus coupables, les plus excusables parfois. Ainsi, cet après-midi, tu ne m'écoutes pas. Mais si, je t'écoute. Il s'agit encore d'un banquier. Tu es insupportable. Hier, j'ai essayé, à propos de Trollmann et de la Société de l'Expansion Nationale, de t'expliquer une escroquerie à laquelle tu n'as rien compris. Aujourd'hui, tu comprendras. Il s'agit d'un amant qui a volé sa maîtresse. Si elle l'aimait, il n'a pas volé. C'est toute la question. Elle l'adorait. Pourquoi a-t-elle porté plainte? Il la trompait. Elle s'est vengée, elle a eu raison. Comme tu simplifies. Il lui a volé un collier de perles et l'a engagé au monde de piété. Au moyen de ce prêt légal, il a pu continuer de vivre avec elle. Tu entends bien? C'est avec elle qu'il a dépensé les 60 000 francs de son larcin. Et tu l'as laissé en prison? J'ai hésité. Qu'aurais-tu fait à ma place? Avant de répondre, écoute l'histoire de ce gamin, car c'est un gamin de 20 ans.
J'écoute, fit Clotilde en soupirant de nouveau.
Un fils de famille, expression consacrée. Des parents un peu gênés, dépensent au-delà de leurs revenus pour maintenir leur train de maison. Le père, un cercle. La mère, une élégante à l'âge critique. Le fils, mon client, si j'ose dire, une mauvaise tête. Mais leur orgueil, 3 lycées de Paris et quelques lycées de province l'ont expulsé. Aucun châtiment, le père et la mère étaient à genoux devant lui. « Il est beau comme un archange. »«
Si beau que cela, »
dit Clotilde d'un air détaché. « Plus beau encore. » »«
Il se défend mal. » »«
Il ne se défend qu'en souriant d'un pauvre sourire et il répète, « Ce n'est pas ma faute. » Son avocat essaie de lui arracher des confidences. Devine celle qu'il nous a faite. Ce sera mourir de rire si ce n'était à pleurer. Je ne sais pas ce qu'elles ont toutes à vouloir de moi. En m'acharnant, j'ai réussi à obtenir d'autres aveux. Le pauvre gosse risque le maximum de la peine. Je l'ai cuisiné pour lui rendre service. Il n'avait pas 16 ans, qu'une amie de sa mère. Ils se vantent tous de cela. Il nous a donné des précisions. Puis ce fut la maîtresse de son père. Pourquoi le renvoyait-on des lycées auxquels on le confiait? Parce que les filles lui faisaient de l'œil dans la rue.
Il les suivait, il découchait. L'une d'elles lui a offert de l'argent. Il a accepté. De ce jour-là, il était perdu.
Ce n'est pas un cas très intéressant, Jules François. C'est assez commun.
Je t'en prie, ne m'interromps pas. J'ai les scrupules et je vais éclairer ma conscience.
Essaye de voir cette famille qui ne délie pas facilement les cordons de la bourse. Et cet Adonis, car c'est un Adonis, ma chère, qui commence de mener une existence double. Son père lui donne 20 francs, le dimanche, pour ses menus plaisirs. La fille, dont il est l'amant de cœur, lui donne 500 francs pour jouer aux courses. Ses parents se mettent à le gronder à tout propos. Ses maîtresses l'adorent chaque nuit. L'une d'elles a voulu se tuer quand il l'a quittée. Ne proteste pas, nous en avons la preuve. Il rencontre une grande actrice. Elle exige qu'il vive avec elle. Il abandonne un foyer respectable pour traîner dans les coulisses, où il fait des ravages.
Un affreux petit bonhomme.
Sois plus humaine.
L'avocat m'a montré les lettres que ces malheureuses écrivaient. Je rougissais en les lisant.
Ah, pauvre humanité. Et je te donne 1 000 de deviner ce qui fut la raison du vol.
Une réaction d'orgueil, ma chère. Il voulait payer les consommations.
La femme de chambre entra, apportant les journaux du soir.
Regarde, Clos-Clos, le voici.
Est-il beau?
Oh, il est charmant.
Et il répéta d'une voix troublée.
Charmant.
Un danger public, dit sévèrement Jules François.
Charmant.
Elle contemplait l'image. Androlo fronça brusquement les sourcils et rejetant la tête en arrière, se frottant les mains.
Un danger public, répéta-t-il. Aussi l'ai-je gardé en prison.
Binet Balmer.